Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est FAQ.
Ça part ici.
Bonsoir, ce soir, nous recevons Laurie de l'association LGBT de l'Université de Sherbrooke. Et comme introduction à cette émission, une chanson qu'elle a choisie de Pierre Lapointe, La forêt des...
Des mal-aimés,
voilà, désolé. Avec du retard, nous sommes désolés, il y a eu un petit incident technique qui a fait qu'effectivement, on n'a pas pu lancer l'émission à l'heure, avec toutes mes excuses. Laurie, à qui je donnerai la parole juste après la chanson générique choisie par elle-même. Et décidément, ce soir, la technique nous fait des misères.
Jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret des laissés dans la forêt des mal-aimés. Dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Dans la forêt des mal-aimés, comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu?
Pierre Lapointe, La forêt des mal-aimés, donc très belle chanson. Alors on la coupe un peu parce que comme on a pris un petit peu de retard, vu qu'on a eu quelques petits incidents techniques, en fait il manquait un câble. Voilà. Donc comme il manquait un câble, c'était impossible de faire la connexion pour la musique. Bon, finalement on a réussi à trouver un câble, donc ça va, tout est bien. Laurie, bienvenue ce soir, bonsoir dans CFAQ. Je suis très heureux d'accueillir Laurie. Elle est présidente de l'association LGBT de l'Université de Sherbrooke. Alors je tenais à cette invitation parce que c'est une voix qu'on a envie d'entendre aussi, parce qu'on parle beaucoup de tolérance, on parle beaucoup de toutes ces choses-là. Vous êtes un peu au cœur avec votre association, vous êtes au cœur de ces problématiques face évidemment à l'intolérance. En ce moment, par exemple, il y a les étudiants du DESS de droit politique appliqué à l'État qui sont en train de préparer une simulation de projet de loi qui justement traite de la haine sur Internet. Et vous faites partie des premières victimes, si on peut dire. Voilà. Mais on va essayer de voir aussi le côté positif, hein, pas que le côté négatif, parce que l'association LGBT de l'Université de Sherbrooke, c'est une association qui bouge, qui fait des choses, qui a des projets. Et Laurie va nous parler de tout ça. Bonsoir Laurie, bienvenue dans cette émission.
Mais bonsoir, merci de l'invitation.
Donc Laurie, tu es étudiante à l'Université de Sherbrooke en psychologie.
Oui, exact. Je suis en train de terminer en ce moment mon bac en psychologie. Donc, je suis finissante. C'est ma dernière session. Ça fait un peu drôle, mais ouais, c'est le bord de finir.
Et ça fait 2 ans que tu es présidente de l'association LGBT.
Oui, exact. C'est ma 3e année, en fait, cette année d'accord. À la présidence. Ouais.
Alors, cette association, pourquoi elle est importante?
Oh mon Dieu, pour tellement de raisons. Je suis peut-être un peu biaisée, par contre, là, mais... Mais je dirais que la première mission de l'asso, c'est vraiment d'amener une représentation des personnes de la diversité sexuelle, de la diversité de genre. Puis on a, on fait plein de projets qui sont associés à ça, que ce soit d'un côté plus de sensibilisation, mais aussi d'un côté, justement, comme tu as dit tantôt, le plus positif, pour se rassembler, pour donner des occasions plus festives, plus... le fun, pour se rassembler en gang dans des espaces qui sont le fun, ouais.
Alors moi qui viens de France, quand j'arrive en Amérique du Nord, j'avais un peu le sentiment que toutes ces questions-là étaient un peu dépassées, d'intolérance, etc. Et pourtant, c'est bien une réalité, y compris ici.
Ben oui, ben c'est honnêtement, c'est quelque chose que j'entends souvent, là, de plein de gens qui nous disent souvent « Ah, mais là, vous pouvez vous marier », comme si, justement, vu que cette loi-là était passée, que... le reste des problématiques n'existait plus, mais j'aimerais ça que ce soit... Voyons, hey, je ne suis plus capable de parler ce soir. J'aimerais ça que ce soit le cas, effectivement, mais malheureusement, ce n'est pas parce que c'est écrit sur le papier que les gens le suivent. Donc, il y a encore, malheureusement, de l'homophobie, de la haine, des commentaires pas le fun, des fois même plus que des commentaires pour certaines personnes. Donc, c'est encore vraiment important, je pense, qu'on fait de sensibiliser puis d'en parler, ouais.
Comment t'expliques que, finalement, en 2024, on débute quand même au début du siècle, déjà bien entamé ce siècle-là, un quart en tout cas, comment t'expliques qu'il y ait encore, finalement, des préjugés, des a priori, de la haine? Une telle intolérance à l'égard des personnes à orientation sexuelle ou genre différent?
C'est une grande et bonne question, je t'avoue. Je pense qu'il y a très certainement plusieurs facteurs en ligne de compte. Là. Je pense que quand même, il faut le dire que ça s'est amélioré depuis, v'là 100 ans, c'était quelque chose de complètement illégal, je veux dire.
C'est vrai.
Jusqu'en 1969, au Canada, c'était illégal, l'homosexualité.
Jusqu'en 1970, en France, à peu près aussi, ouais, dans la même période, oui.
Ouais, mais 69, c'est ça, ça fait pas si longtemps que ça. C'est plus jeune que mes parents, tu sais, fait que c'est fou quand on y pense, là.
Presque le même âge que moi. Mais, et puis encore de nombreux pays où, malheureusement, l'homosexualité est toujours condamné à mort même, hein, des pays comme l'Iran par exemple, voilà.
Oui, il y a encore quelques pays en plus dans le monde justement que c'est la peine de mort, puis encore plus d'autres malheureusement où c'est des peines de prison, etc., que c'est juste complètement pas légal. Fait que tu sais, oui, aussi il y a eu des belles avancées dans les dernières décennies, mais
Mariage homosexuel, ça a été quand même quelque chose d'important, un acquis important. Ça a permis quand même de faire entrer quelque chose dans les mœurs.
Oui, clairement, mais je pense que ça a été un grand moment, puis une grande avancée pour la communauté. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est... Comment dire?
Est-ce qu'on observe un recul des discriminations, par exemple, au niveau de l'emploi, au niveau de... dans la vie publique, etc.? Par exemple, le travail des artistes, qui fait beaucoup, évidemment. Mais genre, est-ce qu'il y a des discriminations encore au niveau de l'emploi, par exemple, pour les personnes LGBT?
Oui, je pense qu'il y en a encore, malheureusement. Il y a encore des discriminations dans beaucoup de secteurs. Ça ne va pas toujours être, justement, toujours en pleine face, mais ça peut arriver, encore une fois, qu'il y ait des préjugés, qu'il y ait des personnes qui soient considérées différemment, qu'il y ait des commentaires pas le fun qui se passent, là. Mais autant dans un milieu de travail que dans un milieu à l'extérieur, là, c'est même s'il y a des lois techniquement qui sont censées punir et protéger, mais ouais, c'est...
Est-ce que dans le milieu universitaire, c'est un petit peu moins sensible? Il y a plus de tolérance, il y a plus ou moins d'indifférence?
Je dirais que c'est du cas par cas. Je pense que chaque personne va avoir son expérience. Je peux parler de ma propre expérience qui a été honnêtement très positive. Là, j'ai pas eu de situations problématiques qui me sont arrivées. Je le sais, puis malheureusement d'autres personnes à qui il peut arriver des petits accrochages, mais je pense que justement, avec le travail comme nous on a, comme il y a d'autres associations qui l'ont fait dans le passé, je pense que ça a pu quand même sensibiliser puis faire en sorte que, ben, on en parle sur le campus, on a de la représentation, on a un local où on peut se rassembler, on a justement ces activités-là qui font en sorte que...
Alors, il y a un local, il y a un site Internet.
Oui, ben, en fait, on a notre page Facebook et on est sur Instagram maintenant aussi.
Ah.
C'est rendu full techno.
D'accord.
Fait que c'est notre page Facebook, c'est LGBTQ+UDS.
Voilà, vous avez bien noté. On répète.
On répète une deuxième fois. LGBTQ+, ben, le signe plus, UDS.
Voilà, donc c'est noté. Donc, ça permet de pouvoir répertorier un peu toutes les activités de l'association?
Oui, exactement. On va faire des publications pour nos activités, pour quand on a des différents projets qui arrivent. Là, comme là, récemment, on a annoncé notre clip de lecture qui s'en vient très bientôt.
D'accord.
Oui, donc c'est dans ce genre de choses-là qu'on va annoncer sur nos réseaux. Puis on va aussi parfois partager quand il y a des organismes de la région qui organisent différentes choses aussi, donc pour publiciser ce que les autres autour font aussi, de belles initiatives.
Parce que l'association, évidemment, fait partie d'un réseau, en fait.
Oui, bien, on a souvent on collabore avec des organismes de la région, là. Je pense notamment, au Gris, que ben, je suis impliquée aussi au Gris en même temps. Là,
donc, alors, le
Gris Estrie, que c'est en fait un groupe, Hey, j'ai un blanc de l'acronyme.
Ah. Bon, c'est pas une question piège.
C'est un organisme, dans le fond, qui vise à démystifier et sensibiliser les personnes à la diversité sexuelle et de genre. Puis, il œuvre principalement dans les écoles secondaires de faire de l'intervention, mais maintenant, il y a aussi des activités sociales qui sont ouvertes aux membres plus à l'externe.
Alors, c'est quoi comme activité sociale, un peu?
Ils ont organisé notamment, on avait fait un meurtre et mystère. Ce genre de petites activités-là. Il y avait un party de Noël.
D'accord.
Des activités comme ça, que c'est relativement nouveau. Là, fait que je pense que ça va continuer aussi. Je crois qu'il y a un party de Saint-Valentin qui arrive d'ailleurs.
Le 14 février.
Oui, mais je ne sais pas s'ils le font le 14. Je pense que c'est un petit peu après. La date m'échappe. Après,
d'accord. Bon, de toute façon, sur ta page Facebook, il y aura sans doute l'annonce.
Oui, c'est ça. Je pense que si on ne l'a pas encore partagé, on s'apprête à le faire, que c'est programmé. Donc,
Ça permet de lutter contre l'isolement de personnes qui se sentent exclues et qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir s'intégrer justement dans un réseau comme celui-ci.
Oui, bien clairement. Je pense que ça fait vraiment une différence de pouvoir avoir des endroits comme ça pour se rassembler dans la communauté, pour justement discuter avec des gens qui comprennent, pour avoir un peu le... Je ne sais pas trop comment le dire en français, mais de safe space. Là,
ouais.
Cet espace-là est sécuritaire, ouvert, où on se sent bien parce que ben, c'est vrai que c'est une demande qu'on a beaucoup, là, principalement depuis que le seul barrier de Sherbrooke a fermé il y a un peu plus qu'un an. S'il y avait un bar gay à Sherbrooke avant, là, qui s'appelait L'Autre D'accord. Zone. Mais là, ouais. Ça fait un petit peu plus qu'un an que c'est fermé. Là, puis
d'accord.
Principalement depuis que c'est... Ben, on en avait déjà avant de ces demandes-là, mais encore plus depuis que ça l'a fermé, qu'il y a des gens qui demandaient, OK, ben, est-ce qu'il y a des activités qu'on peut vraiment se regrouper, on veut rencontrer des gens. Fait que c'est des demandes qu'on reçoit beaucoup, là, qu'il y a peu de lieux identifiés pour ça, et malheureusement, à Sherbrooke encore, donc...
D'accord.
C'est pour ça que c'est important, notamment que nous, que le GRI, que y a aussi Transestri, qui sont un bel organisme, qui organise plein d'activités pour les personnes trans non-binaires. C'est très important, je pense, ce genre d'initiative. Ouais.
Et puis de libérer la parole, parce que j'ai participé à une soirée. J'étais à une soirée qui était organisée par la Société nationale de l'Estrie, en coopération avec plusieurs associations LGBT, donc sans doute peut-être la vôtre, où c'était en fait une sorte de concours de poésie, hein, le slam, voilà, concours okay, de slam. Ouais. Et cette soirée-là, justement, était vraiment spécifiquement tournée vers la communauté LGBT. Alors, il y a eu beaucoup de choses ce soir-là que j'ai entendues, beaucoup de souffrances, j'ai entendu aussi. Cette souffrance, elle est encore réelle dans cette communauté?
Oui, c'est vrai. Là. Il y a encore cette souffrance-là. Puis, je pense que justement, d'avoir des endroits comme ça pour être capable de l'exprimer, puis de l'exprimer à des gens qui comprennent, qui sont capables de le recevoir, puis de comprendre ce que ça veut dire, pas juste de l'avoir potentiellement même vécu soi-même, je pense que ça aide, ça amène un soutien, ça amène... justement, d'avoir une communauté qui se tient aussi. Là.
Et qui permettent, en fait, de créer un lien fort aussi pour se tenir les uns les autres.
Ouais, je pense que oui, effectivement, là, que ça peut amener ce positif-là dans le négatif un peu. Je sais
ouais,
pas trop tout comment
à fait.
Dire.
Oui, si, c'est une bonne, image, oui, tout à fait.
Parce que c'est vrai qu'on essaye de faire des activités le fun, sociales, pour rassembler, mais on peut pas justement nier que il y a encore des choses négatives qui se passent dans le monde. Il y a encore de l'homophobie, la discrimination, comme tu l'as nommé. Puis je pense que sans non plus le nier, on peut...
Les rejets aussi par la famille, des fois.
Oui, c'est ça encore, malheureusement.
Ça reste encore quelque chose de courant?
Ben c'est difficile de qualifier de courant ou non. Je dirais que c'est encore des choses qui arrivent.
Ouais.
Personnellement, moi, j'ai eu une famille qui était super acceptante, super ouais. ouverte, puis j'ai eu cette chance-là. Mais je sais qu'il y a des gens autour de moi que ça n'a pas du tout été le cas, là. Que ce soit des gens qui ne se sont pas parlé avec leurs parents pendant un certain temps, ou même des fois carrément mis à la porte pendant un certain temps. Mm-hmm. C'est des choses qui arrivent encore. Probablement moins fréquents qu'avant, certes, mais c'est pas... Des fois, on a l'impression que oh, ça n'existe plus, c'était dans le passé, et puis tout est réglé, mais ça arrive encore.
Bah, c'est vrai qu'il y a une visibilité quand même par les médias, les journaux, etc., de la communauté LGBT. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que c'est quelque chose aujourd'hui qui est rentré dans les mœurs, banalisé d'une certaine manière, mais finalement, on voit bien que ce n'est pas le cas, enfin, pas complètement. Comment tu penses qu'on peut changer, justement, continuer de changer les mentalités par rapport à ce genre de choses?
Je pense que c'est une étape à la fois, en essayant de sensibiliser une personne à la fois, un événement à la fois, de parler des différentes réalités. Je pense que, justement, cette représentation-là, puis juste le fait qu'on en parle plus, qu'on le voit plus, que ça existe, que je suis convaincue que ça a un effet positif. Parce que, je veux dire, je pense à... Je suis pas si vieille que ça, puis même... De quand moi j'étais plus jeune, j'en voyais pas beaucoup de représentations de femmes lesbiennes. Mm. Puis les seules représentations que je me souviens qu'il y avait, ben, c'était souvent très stéréotypé.
Péjoratif.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'étais comme, ouais, ok, mais j'aime les filles, mais je ressemble pas à ça, moi. c'est souvent les rares représentations qu'il y avait, c'est ça, soit péjoratif, stéréotypé ou. Assez négatif, que c'est des gens justement qui étaient rejetés pour ça. Donc, c'était pas une image super positive, parfois qui était reflétée dans les médias. Là. Mais je pense justement que ça a beaucoup évolué depuis. Puis certainement que ça a eu un impact parce que, je veux dire, jusqu'à là, pas si longtemps, on parlait d'homosexualité, un peu de bisexualité, un peu de personnes trans, mais maintenant, on parle beaucoup plus de l'ensemble des. Comment dire,
alors c'est vrai que, alors moi je dis LGBT par exemple, parce que alors, en fait c'est LGBTQIA+, si j'ai bien retenu.
Oui, ben oui, oui. En fait, le plus vient inclure les autres lettres qu'on nomme pas dans le LGBT. Fait que L pour lesbienne, G pour gay, B bisexuel, T trans, Q c'est pour queer. Et le plus, c'est ça vient inclure toutes les autres identités qu'il n'y a pas dans l'acronyme original. Là.
D'accord.
Donc, par exemple, pansexuel, ben, le P, il n'est pas dans le LGBTQ de base, entre guillemets. Mm-hmm. Mais le plus vient justement inclure toutes ces identités-là.
Le travail des artistes a-t-il été positif, justement, aussi, pour la reconnaissance des droits des LGBT?
Je pense que oui, parce que ça nous donne des... Ça nous donne des voix qui s'expriment un peu en notre nom, à quelque part. Puis ça nous donne des personnes à qui s'identifier, qui représentent une foule d'identités, de représentations, puis de réalités différentes. Donc oui, je pense que ça l'a eu très clairement du positif.
Alors justement, dans les chansons que tu as choisies, il y a une très belle chanson, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, de Pomme,
oui.
que tu as choisie. Et oui, on va pas pouvoir malheureusement toutes les écouter si on aura le temps un peu de parler quand même. Mais celle-là, j'ai bien envie d'écouter parce qu'elle m'a plu. Tu vas nous dire un peu cette chanson, pourquoi tu l'as choisie. On va l'écouter d'abord. Elle est absolument magnifique. Vraiment, je pense que les auditeurs vont vraiment beaucoup l'aimer aussi. Voilà, une magnifique chanson de Pomme et Safia Nolin. On brûlera. Tu avais choisi d'autres chansons, j'espère qu'on va pouvoir les écouter. Il y a Eddy de Prateaux, il y a donc Pierre Lapointe qu'on a écouté, Angèle également, et Ariane Moffalt. Pourquoi cette chanson en particulier de Pomme,
oui.
par exemple?
Ben, en fait, cette chanson-là, c'était une suggestion d'une de mes collègues Lasso. Mais c'est vraiment deux artistes lesbiennes super talentueuses qui, je trouve que c'est une super belle chanson qui parle d'amour, mais aussi du regard de la société. Donc, ça fait... ouais, c'est deux excellentes artistes, d'où le choix ce soir.
Alors, ça rappelle une chanson qui était sortie dans les années 80, Mécano, une femme avec une femme.
Ça me dit quelque chose.
Ouais, alors qu'il reste une chanson un peu historique, hein, parce que à l'époque c'était très audacieux. Alors il commençait à avoir des artistes qui commençaient à revendiquer leur homosexualité, mais c'était quelque chose. Par exemple, George Michael, hein, qui a caché pendant de très longues années son homosexualité, qui était d'ailleurs l'idole et toutes les femmes l'adoraient. Malheureusement pour elle, il était homosexuel et qui révéla ensuite ce qu'on appelait les coming out à l'époque, révéla ensuite son homosexualité. Il y avait aussi quelques chanteurs comme Jimmy Somerville, par exemple, qui avait sorti une chanson Small Town Boy, qui racontait l'histoire d'un jeune garçon en Angleterre, dans une petite ville anglaise, qui était chassé en fait par ses parents et quittait sa petite ville pour partir à Londres. C'était au début des années 80. Celle de Mécano, c'était en 87, si je me souviens bien. Une femme avec une femme. À l'époque, c'était quand même quelque chose de nouveau. Madonna, évidemment, qui a fait énormément pour faire reconnaître la communauté LGBT également. C'est vrai qu'en 30 ans, il y a eu une visibilité, il y a eu une reconnaissance qui s'est faite dans le monde artistique et culturel. Est-ce qu'on en ressent aujourd'hui les effets au niveau social, dans la société d'une manière générale?
Je pense que oui, dans une certaine mesure, parce que les personnes LGBT, on n'est pas juste poup apparu sur Terre à un moment donné. Là, je veux dire, c'est des choses qui ont toujours existé, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Puis c'était pas légal non plus, là, donc ça aide pas. Mais je pense aussi, notamment avec les artistes, que je pense que l'art, notamment la chanson, c'est des manières de faire parler de plein de réalités, de plein d'émotions, de plein de sentiments, dont justement les réalités des personnes queer. Puis je pense que justement, ces personnes-là qui se sont ouvertes, qui en ont parlé, ça l'a fait un peu boule de neige, un peu, si on veut.
Oui, tout à fait. Oui, ça a permis effectivement la visibilité entraîne une forme de reconnaissance. Et on le voit dans cette société, puisqu'on voit même que le pape François, par exemple, de l'Église catholique, a ouvert lui aussi les portes, en reconnaissant par exemple la communion pour les homosexuels. C'est une évolution quand même assez notable également au niveau de l'Église catholique. Est-ce que c'est un mouvement qu'on peut estimer irréversible, ou est-ce qu'il y a encore des risques de régression en Occident?
Je pense que les droits, c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Oui, en ce moment, on a eu plein de belles avancées, mais on peut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est pas parce qu'on nous a donné ces droits-là qu'on peut pas nous les enlever, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes LGBTQ+, qui regardent les États-Unis en ce moment, puis qui sont un petit peu découragées, voire qui ont peur de s'en aller vers là. C'est un peu décourageant parfois quand on regarde nos voisins américains, particulièrement dans certains États où les droits dans la communauté, particulièrement des jeunes transnombinaires, sont vraiment menacés. C'est des gros reculs qu'on a vus par rapport aux droits de ces personnes-là, justement dans ce pays-là occidental. Donc malheureusement, c'est ça, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pour ça qu'il faut continuer à lutter, à en parler, à sensibiliser pour éviter qu'il y ait des reculs ici aussi.
Oui, notamment par rapport aux questions des opérations chirurgicales transsexuelles, c'est ça? Qui posent question par rapport à ça. La place aussi des homosexuels dans certains sports, les trans dans certains sports. J'ai vu qu'il y avait eu des polémiques autour de ça. Comment tu vois ça, toi, justement, un peu toutes ces questions d'actualité, en quelque sorte?
Une question politique crunchy. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques dans l'actualité là, par rapport aux questions des personnes trans, comme tu le nommais, là, dans le sport, par exemple. Je dirais, c'est difficile à répondre, ce genre de questions. Moi, honnêtement, je pense que, justement, les personnes trans sont des personnes. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes droits d'exister que le reste de toutes les personnes. Puis, on doit les respecter, les voir comme tels, puis même les aider, parce que, je veux dire, quand on regarde les statistiques pour la santé mentale des jeunes trans, c'est vraiment très triste et décourageant. Parce qu'il y a une partie vraiment très grande des jeunes trans pensent actuellement au suicide, ceux qui n'ont pas eu la chance de justement faire des transitions sociales. Puis c'est de là toute l'importance d'entourer ces jeunes, ces moins jeunes-là, de leur amener du soutien, de les accompagner au mieux qu'on peut.
Mais après, comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir une troisième, finalement, une troisième, il y a des compétitions pour hommes, il y a des compétitions pour femmes, pourquoi ne pas envisager des compétitions pour trans, ce qui serait un équilibre et éviterait justement ces polémiques?
Mais j'avoue que dans le monde sportif, je ne suis pas la plus informée, donc juste un petit disclaimer, entre guillemets, je ne suis pas la plus informée sur le sujet, donc je ne veux pas donner des informations qui seraient peut-être fausses. Mais ce que j'en sais par contre, c'est qu'il y a une partie de la polémique que les gens nommaient au niveau des niveaux d'hormones, mais dans un sens, même entre les personnes qui sont des femmes cisgenres qu'on appelle, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas trans et des hommes cisgenres qui ne sont pas trans, il y a des grosses variations hormonales. C'est pas juste, c'est pas tous les corps de femmes cisgenres qui sont pareils, tous les corps d'hommes cisgenres qui sont pareils. C'est en tous les humains, il y a des grosses variations.
Oui, de toute façon, ne serait-ce que oui, dans le même genre, si on peut dire, entre femmes comme entre hommes, de toute façon, il y a forcément des différences, ça c'est clair.
Puis, si je me trompe pas d'ailleurs, une des personnes où il y avait une polémique par rapport à elle, c'est une femme cis qui avait été interdite de compétition. Je me souviens vraiment plus de son nom. Mais parce qu'elle, naturellement, elle produisait un petit peu plus de testostérone, mais c'était vraiment... c'est une femme cisgenre, c'est juste que son corps en produisait plus, puis là, les fédérations sportives n'étaient pas super contentes de ça, là. Mais alors, que, je veux dire...
Mais est-ce que ces polémiques ne sont pas un peu, finalement, un peu idiotes, alors qu'il serait tellement simple pour les fédérations de sport de faire une troisième catégorie, homme-femme, trans ou ces gens, je sais pas, peu importe comment on l'appelle, mais qui permettrait tout simplement de... J'ai l'impression que des fois on reste à rebouter sur des choses anciennes et qu'on a du mal finalement à faire évoluer la société.
Je dirais au niveau des catégories, je le sais pas. Est-ce que je suis pas... Comme je disais, je suis pas la plus informée sur le sujet. Par contre, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça fait en ce moment, on en parle, ça fait des grosses polémiques, mais au final, quand on y pense, c'est le sport professionnel, déjà, dans la population en général, ça touche une infime minorité de la population. Puis dans cette minorité de la population, il n'y en a pas beaucoup que c'est des personnes trans. Même que les personnes trans qui ont accès à des sports de haut niveau comme ça, c'est même moindre que leur proportion.
C'est très exceptionnel, oui.
C'est ça, c'est une infime, un petit nombre de gens. Puis on en parle comme si c'était... je sais pas. J'ai l'impression parfois que c'est un peu justement peut-être une transphobie, discrimination, mais que... Comme d'essayer de se donner, entre guillemets, un peu une raison. Là. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais...
Trouver des polémiques, là, il y en a pas.
Ouais, un peu, à quelque part.
Alors, par contre, au Québec, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, apparemment... depuis les salles de bain mix, je ne sais pas si c'est le bon terme, excuse-moi si je me trompe de terme, mais en tout cas des neutres, si on peut dire. Et puis également des efforts apparemment qui sont faits également pour l'inclusion justement des personnes LGBT. Comment ça se concrétise au quotidien?
Je veux dire, il y a eu des efforts et des je ne sais, je trouve pas de contraire d'efforts, mais en tout cas, disons que c'est pas toujours super réjouissant quand on regarde les mesures qui sont annoncées, là, notamment au niveau des toilettes mixtes. À la base, il y avait eu justement une grosse polémique. Le ministre avait annoncé que non, il faut pas transformer les toilettes en toilettes mixtes.
Ah, d'accord. Donc, j'avais une mauvaise information.
Il y avait eu cette annonce-là qui avait été faite, puis... En tout cas, grosse polémique politique avec qui disait qu'il allait faire un comité de sages d'experts, mais que au final, ce comité de sages experts-là, c'est trois personnes qui ne sont pas de la communauté du tout. Donc, c'est...
Est-ce qu'ils ont établi un contact avec justement les associations, un peu comme la tienne?
C'est compliqué, on va dire. Il y a un certain contact qui a été fait avec des gros regroupements provinciaux, mais Ouais, disons que c'est pas juste des avancées qui se passent en ce moment, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes trans, même de la communauté en général, qui regardaient les actualités, particulièrement cet automne, puis qui étaient un peu découragés, là. Je me mets à la place d'une jeune personne au secondaire qui voit des gens faire des manifestations pour dire que, hey, non, faut pas de toilettes mixtes. Il me semble que ça.
Oui, c'est vrai.
J'aurais pas aimé ça être à leur place, là. Puis c'est, au final, je veux dire, c'est des toilettes. Est-ce qu'on peut juste aller à la toilette en paix, la gang?
C'est difficile d'y aller à plusieurs aussi.
Je veux dire, c'est des toilettes. Vous pensez qu'on fait quoi aux toilettes? On veut juste comme ce qu'on a à faire et on lave nos mains et on s'en va.
C'est ça. C'est vrai. C'est des... Moi, ça m'apparaît comme des polémiques un peu. Voilà. Les trans, ce sont la population la plus fragilisée au milieu de tout le regroupement LGBT.
C'est sûr que c'est dur de comparer, entre guillemets, mais c'est vrai que les personnes trans ont certains défis dans la société que les personnes cis, donc les personnes qui sont pas trans, vont pas vivre. Je veux dire, si on parle des droits des personnes trans, ça a été vraiment plus tard dans l'histoire aussi. Là.
Ouais.
Comme... il y a eu des avancées pour les personnes homosexuelles avant que les avancées pour les personnes trans existent en termes de temporalité.
La transphobie serait une sorte de transfert, puisque l'homophobie n'est plus aujourd'hui bien vue. La transphobie prendrait un peu le relais, si on peut dire.
Ben, je pense que les deux, en fait, c'est pas tant que ça bien vu, là. C'est pas tant que ça acceptable, on va se le dire. Mais je pense que parfois, ça se fait un peu de manière détournée.
Ouais.
Les gens ne vont pas nécessairement dire « Oh mon Dieu, espèce de insérée, insulte homophobe.
Mm-hmm. »
Et des fois, ça va être des petits commentaires. Ou même chose pour la transphobie, de justement traiter comme si... Des fois, on entend là « Ah, mais c'est pas une vraie femme, entre guillemets. »
Des remarques blessantes.
C'est vraiment blessant. C'est des remarques de gens, à mon avis, qui ne sont pas informés sur ces réalités-là. Ça a aussi des gros impacts sur les personnes concernées, des fois.
Oui, forcément.
Surtout quand ça se passe sur les réseaux, notamment. Là.
Sur les réseaux sociaux, sur Internet, oui.
Ouais, des fois, les gens ne réalisent pas qu'il y a des humains derrière les écrans.
C'est
puis,
ça, c'est ça.
Ouais.
On se demande si ceux qui écrivent ce genre de choses le sont humains, justement.
Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
C'est une question qu'on peut se poser, c'est pour ça que je la pose. Voilà. Angel, on va la passer, c'est une très belle chanson, Ta Reine, elle est vraiment très belle cette chanson, j'ai beaucoup aimé aussi cette chanson. Voilà, magnifique chanson de Angel, vraiment très très belle chanson. On va parler d'amour.
Ouh.
On va parler d'amour. Et oui, parce que... C'est vrai qu'en fait, derrière toutes ces problématiques, entre guillemets, rien que le mot déjà est presque gênant, enjeu serait plus juste. En vérité, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton association ici, dans mon émission, parce qu'on oublie une chose essentielle, c'est simplement de pourquoi on n'arrive pas, dans cette société, à laisser le droit aux gens de s'aimer comme ils veulent, librement. En bon français, je dirais, alors je suis désolé, j'avais un peu choqué, de laisser chacun faire ce qu'il veut dans son pieu. Voilà. Et qu'après tout, ça ne regarde personne. Mais moi, j'aimerais parler d'amour parce que finalement, c'est le droit d'aimer qu'on met en cause aussi quand on n'autorise pas des gens, sous prétexte qu'ils ne seraient pas dans la norme sociale, dans le conformisme, je ne sais pas quelle idée de ce genre. L'amour, finalement, c'est ça qui compte le plus.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, l'amour, puis d'être qui on est, en fin de compte. C'est justement, il y a un peu une norme sociale qui est établie de c'est un homme avec une femme qui ont une famille, des enfants, et qui seront, comme on dit dans les films Disney, ils furent heureux jusqu'à la fin des temps.
Et eurent beaucoup d'enfants.
Ouais, eurent beaucoup d'enfants et tout.
Qui furent traumatisés et malheureux du déchirement des couples.
Mais c'est que c'est pas toujours comme ça dans la réalité, je veux dire.
Pas vraiment, non.
C'est ça.
Donc l'amour, finalement, c'est ça un peu qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à... C'est vrai que ça me perturbe, cette idée, quoi. qu'on puisse pas accepter que les gens puissent s'aimer en toute liberté, comme ils le veulent, comme ils l'entendent, qui faille toujours qu'il y ait cette espèce de jugement, ce préjugé social qui pèse, culturel. Alors ça régresse quand même, hein, ça régresse, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de constant.
Ouais, ben je pense que justement il y a un peu de certaines personnes une peur de la différence, puis surtout quand c'est quelque chose d'inconnu, qu'on n'a pas, soit qu'on n'a pas de gens autour de nous qui sont issus de la communauté ou qu'on a un petit peu moins de représentation, c'est sûr que ça fait de l'inconnu, puis c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes s'ils ne sont pas informées, mais c'est ça qu'il faut se rappeler, justement, que c'est juste de l'amour, puis c'est des gens qui essayent d'être qui ils, elles, elles veulent, puis au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans la vie de ces gens-là?
Non, mais rien, en fait. Rien. Rien. C'est ça qui est le plus sidérant, justement.
Ouais, puis c'est pas des choses qu'on choisit, puis qu'on... je veux dire, je me suis pas levé un matin, puis je me suis dit, ah, oh, tu sais, il me semble que j'aimerais les femmes, moi. Non, c'est... Je suis née comme ça, ça a toujours été comme ça, et puis ça risque de toujours être comme ça. Et puis...
Et puis l'essentiel, c'est que tu sois heureuse.
Mais oui, c'est ça.
Moi, je sais que... Moi, j'ai trois filles. Bon, voilà, de grandes maintenant, mais je sais que des fois, c'est arrivé qu'on en parle pendant l'adolescence. Moi, de mon côté, je leur ai toujours dit, vous ferez ce que vous voulez, quoi. L'essentiel, c'est que soyez heureuse, quoi. Voilà, peu importe les choix que vous ferez, aussi bien pour la vie sentimentale que pour le boulot, que pour les études, etc., etc. Est-ce qu'on manque finalement dans ces sociétés de vouloir toujours contrôler la vie des autres? Est-ce qu'on ne doit pas revenir aux principes fondamentaux de la philosophie des Lumières et simplement de revenir aux principes de liberté individuelle?
Ouh, on va loin! Mais c'est sûr que c'est... Ah, c'est intéressant, j'aime ça! Ben, dans un certain sens, c'est vrai que... C'est... Ben oui, la liberté individuelle, laisser l'autre être libre d'exister, d'être qui il est lié, là. Puis, mais tu sais, comme tu le disais, que l'autre soit avec un gars, une fille, une personne non-binaire, au final, tant qu'ils sont bien ensemble, c'est ça l'important.
Et ça n'a aucun impact, en plus, sur la vie des gens qui ne le sont pas.
Mais c'est ça.
Parce que c'est ça, en vérité. En quoi ça gêne que des gens fassent des choix différents? Mais bon... Ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses, hein, les choix religieux, les choix politiques, etc., etc. C'est vrai qu'on est dans une société finalement encore très conformiste et assez intolérante, d'une certaine manière, à bien des égards, ce qui est un peu regrettable.
Mais c'est vrai que ce qui sort de la norme en général, même hors de la communauté LGBTQ+, c'est vrai que... Parfois, ça dérange, puis on a une vision qui peut être plus négative des gens qui diffèrent de l'opinion et de la norme là, qu'on puisse imaginer en tant que société, mais c'est ce que je trouve, dans un sens, assez dommage.
Oui, ouais. Tout à fait. Les projets de l'association pour les semaines et mois à venir, les quelques projets comme ça. Bon, il y en a plein sur ta page Facebook, tu nous rediras d'ailleurs l'adresse Facebook.
Ben oui, hey, mais on a plein de projets qui s'en viennent, là. Disons, premier sur ma petite liste, on a la BiblioQueer qu'on a lancée cet automne, en fait. D'accord. C'est une bibliothèque de plein d'œuvres littéraires à thématique LGBTQ+. Puis on a à peu près une centaine d'œuvres, là, donc on est quand même équipés.
Ouais.
Puis on a essayé d'avoir quelque chose de vraiment diversifié, là, autant en termes de... comme,
alors, elle est où, cette bibliothèque?
À notre local.
À l'université.
Oui, à l'université. Notre local, c'est le E10009. C'est au sous-sol du pavillon de la vie étudiante, en fait.
D'accord.
En face de la zone, pour les gens qui connaissent. Puis, c'est ça, on a notre bibliothèque là. Puis, on a vraiment essayé de faire quelque chose de, justement, là, de diversifier, autant au niveau des styles littéraires. Fait qu'on a...
Ouais.
On a de la BD, de jeunesse, des romans, un peu de poésie, un peu de théâtre même. Puis aussi au niveau des thématiques abordées, on a essayé justement d'être le plus possible inclusif, du plus comment dire, de réalité qui existe dans notre communauté. Fait que, on voulait pas juste avoir, comment dire... C'est bien d'avoir des livres, comment dire, d'un jeune ado gay qui veut faire son coming out, mais il existe autre chose aussi. Souvent, c'est un peu ça qu'on connaît plus dans certaines représentations, mais c'est le fun d'avoir autre chose aussi.
Alors, surtout que la littérature est riche aussi d'aborder ces thèmes, y compris des grands auteurs.
Mais c'est ça, oui. Puis de dire un peu que... ben, on fait pas juste faire notre coming out en tant que personne gay trans, là, je veux dire, on existe, là, puis d'avoir aussi pas juste des livres qui l'abordent de façon directe, on voulait aussi avoir des ouvrages où il y a une représentation de personnages de la communauté, sans que ce soit le sujet principal, qu'il y a quand même une représentation, mais que tout le livre a pas besoin d'être à propos de ça.
Juste oui, c'est faire partie, c'est faire société.
Ben exactement, tu sais, il nous arrive d'autres choses que comme...
Oui, j'ai le doute.
Queer, là. Puis, on voulait vraiment être le plus diversifié, inclusif. Puis, ouais, on a lancé ça cet automne et je suis bien contente de ça. Puis avec ça, on lance notre club de lecture aussi très bientôt.
Ben alors, ce club de lecture, il consiste en quoi? On se regroupe, on évoque des lectures ensemble?
Ouais, ben un peu ça. Dans le fond, on va se regrouper ensemble pour vraiment partager nos coups de cœur littéraires. Puis on a eu un partenariat avec les Herbes Folles aussi de Sherbrooke. Donc, ils ont fourni des petites tisanes du thé pour les personnes qui seront présentes. Donc, avec un petit thé pour pouvoir parler de nos lectures, faire des suggestions. Je serai regroupée ensemble dans un petit espace le fun, agréable.
Et puis peut-être une occasion aussi pour des hétérosexuels de venir à votre rencontre aussi.
Ah ben tout le monde est bienvenu, nous. On ne demande pas à tout le monde comment il ou elle s'identifie. Là, tant que les alliés sont toujours les bienvenus à nos événements. Là. C'est, notre objectif, c'est de garder l'espace de safe space, d'espace ouvert, sécuritaire. Mais tant que nous, on reste dans cette visée-là, dans cet espace-là, nous... tout le monde est bienvenu. Là.
Il y aura bien sûr sur ta page Facebook les jours.
Oui, heures. Bien sûr.
Voilà.
Puis on a notre première rencontre mercredi cette semaine.
Ah, ben c'est bien, dès ce mercredi-là.
Oui, oui.
D'accord.
C'est
ah, ben alors faut le dire.
Ah, ben je l'ai dit.
Voilà. Donc à quelle heure mercredi?
Ça va être, ben, la première rencontre, elle est mercredi le 24 à 17h.
À ton local?
Ouais. La première rencontre va être à notre local, puis les suivantes vont être à la zone juste l'autre bord du couloir.
D'accord, OK.
Fait que juste à côté.
Donc là, c'est noté sur les tablettes.
Oui.
On note mercredi. On se retrouve au premier café littéraire de l'association LGBT de l'Université de Sherbrooke.
Oui, exact, c'est ça. Toutes les infos sont sur la page Facebook, comme tu as dit tout à l'heure. Là, donc
il ne faut pas hésiter à aller voir... Et à s'inscrire, hein. On clique sur le suivi, j'aime, je sais pas quoi, là, et on a les petites infos qui circulent.
Oui, ben oui, on peut nous suivre, cliquer sur j'aime pour avoir toutes nos publications et nos mises à jour avec tous nos événements qu'on organise. Ouais, c'est effectivement, on clique sur j'aime.
Super, ben c'est ce que j'ai fait. Donc, mercredi, hein, au local LGBT, bâtiment E1 de l'Université de Sherbrooke à 17h.
Yes, exact.
Voilà. Laurie, j'ai vraiment été très heureux de t'accueillir ici ce soir. Je me rends encore toutes mes excuses pour ce petit incident technique qui nous a un peu retardé le début de l'émission. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça t'a permis en tout cas de pouvoir exposer ton point de vue. C'était intéressant, c'était important de le faire aussi. Voilà, en tout cas, moi j'en suis très heureux dans mon émission d'avoir accueilli ton association, de t'avoir accueilli toi. Voilà, ici, c'est quelque chose d'important. Dans cette société, de rappeler des messages de tolérance, d'ouverture et de savoir accepter les autres. Il y a une très belle chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelait « Je te donne » qui était sortie en 85 et qui disait en gros « Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance ». Voilà, je trouvais que c'était une chanson qui est universelle et qui s'applique à tout. Et qui est bien d'actualité encore dans ces problématiques-là aussi. Laurie, ça a vraiment été un plaisir. Et bah, l'antenne, de toute façon, t'est disponible. Je te réaccueillerai avec plaisir. Voilà. Si tu as des infos à faire passer, tu as le Messenger, tu me les envoies. Et en début d'émission, je n'hésiterai pas à les passer, bien évidemment. pour ton association, qui sera toujours la bienvenue ici.
Mais merci à toi pour l'invitation, ça a été un plaisir.
Également. Et je rappelle que lundi prochain, nous recevrons dans cette émission, à 18h, Luc Fortin, ancien ministre, qui viendra, nous fera le plaisir de passer une heure avec nous, comme Laurie a passé ce soir, cette belle soirée, ce bel entretien avec elle. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore, Laurie, d'avoir été des nôtres ce soir.